sur D4B 90.4 à Mel et 101.4 à Niort. Les infos dans le monde avec Radio France Internationale.
Il est 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Le journal international avec vous, Arthur Ponchelet, et RFI est à Kousra dans un instant.
Notre correspondante a pu se rendre dans ce village de Cisjordanie occupé, où les colons assiègent 3 maisons palestiniennes depuis 10 jours, le tout sous les yeux passifs de l'armée israélienne. L'Iran dément avoir envoyé des missiles contre les Émirats Arabes Unis. En représailles, Abu Dhabi a suspendu hier tous les échanges commerciaux avec Téhéran. L'armée iranienne a saisi cette nuit un pétrolier émirien qui tentait de franchir le détroit d'Ormuz. C'est aussi la présidente de la Cour pénale internationale sanctionnée par les États-Unis. La promulgation au journal officiel de la loi sur la fin de vie en France. Et puis Patrick Vieira à la tête des Lions de la Teranga, c'est officiel. Le champion du monde 98 prend les rênes de la sélection sénégalaise.
Petit village à une dizaine de kilomètres au sud de Naplouse qui est au cœur de l'actualité internationale depuis 10 jours.
Car il est devenu une nouvelle illustration de la violence des colons israéliens en Cisjordanie occupée. Voilà donc plus d'une semaine que 3 maisons palestiniennes sont assiégées à Kousra. Leurs habitants sont pris au piège, dépendant des approvisionnements en eau et en nourriture d'une poignée de volontaires. Notre envoyé spécial Frédéric Misselin s'est rendu sur place. Reportage.
Ces maisons-là sont celles qui sont encerclés.
Sur les hauteurs de Kousra, Abdelhakim, un habitant du village, décrit la colline en face. Inaccessible, c'est une zone militaire fermée par l'armée israélienne. Depuis 10 jours, des colons assiègent 3 maisons palestiniennes avec 13 personnes à l'intérieur.
Voici la maison de Louaya Boridi qui est assiégée avec son frère et son fils. Et cette maison-là à droite, c'est celle de la famille Hassan.
C'est là que sont pris au piège les proches d'Abdelkarim Hassan, un cultivateur. Le vieil homme inquiet appelle sa famille 10 fois par jour.
C'est difficile de vivre dans une prison où il est interdit d'ouvrir les fenêtres, où Internet est coupé, où il est interdit de respirer, de sortir. C'est une prison.
Le siège est illégal, dit le consul des Pays-Bas pour les territoires palestiniens. Michel Rantenard a été le premier diplomate étranger à se rendre à Kousra.
It needs to stop.
Cela doit cesser et il est évident que les autorités d'occupation ont la responsabilité de gérer cette situation. Or, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les mesures prises pour empêcher ces colons qui commettent ces violences sont insuffisantes.
Le maire de la ville, Abdulazim Wadi, ne décolère pas.
10 jours, c'est un siège beaucoup trop long pour des familles entières avec des femmes et des enfants. L'armée aurait pu mettre fin à tout cela en 10 minutes.
L'armée israélienne, présentée comme la plus puissante du Moyen-Orient, n'a toujours pas délogé les colons violents à Kousra. Frédéric Misselin, Kousra, RFI.
Et parmi les maisons assiégées, l'une est occupée par un américano-palestinien, Louaya Aburidi. Il a hissé un drapeau américain au-dessus de chez lui et en appelle désormais à l'aide des États-Unis. Hier, l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a qualifié d'activité terroriste les actions des colons israéliens. La relation entre les États-Unis et Israël se heurte aussi aux opérations militaires de l'État hébreu en Syrie. Hier, la diplomatie syrienne a accusé Tel Aviv d'avoir frappé une base aérienne du nord-ouest de la Syrie. Une escalade inacceptable, dit Washington. Israël ne revendique pas explicitement cette frappe, mais accuse la Turquie de représenter une menace. D'après Tel Aviv, Ankara s'apprêtait à envoyer des troupes sur cette base aérienne. Des allégations infondées, selon le gouvernement turc. Le chef de l'armée iranienne met lui en garde les pays du Golfe contre toute aide à l'armée américaine. Des propos qui interviennent après une nouvelle escalade entre Téhéran et les Émirats Arabes Unis. Le ministère émirien de la Défense affirme que l'Iran a lancé hier 2 missiles contre son territoire, ce que dément la diplomatie iranienne. En représailles, les Émirats Arabes Unis suspendent tous les échanges commerciaux et financiers avec l'Iran, Tiavol Ghazi.
La tension est montée de plusieurs crans entre l'Iran et les Émirats arabes unis depuis hier soir. Les Émirats qui ont décidé de rompre toute relation économique et commerciale avec Téhéran après l'attaque qui a été menée contre le port de Jabal Ali dans le détroit d'Ormuz. Les Émirats ont accusé l'Iran d'avoir lancé deux missiles contre ce port et ont décidé de rompre toute relation commerciale et économique avec l'Iran, ce qui peut avoir des effets très importants puisque avant la guerre, les relations entre l'Iran et les Émirats représentaient quelques 20 milliards de dollars d'échanges tous les ans. Beaucoup de produits sous sanctions américaines étaient exportés d'abord aux Émirats avant d'être envoyés en Iran. Donc cela aura des conséquences également sur le prix du dollar en Iran même. Autre tension, l'Iran a décidé de saisir un pétrolier émirati qui essayait de traverser le détroit d'Ormuz. Et donc ce pétrolier est dirigé actuellement vers le port de Bandar Abbas. Donc on peut s'attendre dans les prochaines heures et les prochains jours à des tensions encore plus importantes. L'Iran accuse les Émirats de jouer le jeu d'Israël dans le golfe Persique, ce qui explique ces tensions qui ne cessent de monter entre les deux pays.
Siavash Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran.
Dans l'actualité également, la Cour pénale internationale de nouveau dans le viseur des États-Unis.
Après avoir incité le mois dernier les États membres de la Cour à s'en retirer, Washington sanctionne de nouveaux dirigeants de l'instance internationale. Sa présidente, la japonaise Tomoko Akane, et le sénégalais Abdoulaye Seye, deux noms qui viennent s'ajouter à une longue liste de responsables dans le viseur des États-Unis, Stéphanie Maupin.
Ils sont désormais 13 magistrats ciblés par des sanctions américaines. Elles visent cette fois la présidente de la Cour, la juge japonaise Tomoko Akane, et le sénégalais Abdoulaye Sey, l'un des responsables du dossier sur la Palestine qui a abouti au mandat d'arrêt contre deux responsables israéliens, dont Benjamin Netanyahou. La Cour a réagi mardi lorsque les acteurs judiciaires sont menacés pour avoir appliqué la loi. C'est l'ordre juridique international lui-même qui est mis en péril. En annonçant les sanctions, le secrétaire d'État américain a de nouveau accusé la CPI d'être une menace pour notre souveraineté nationale. Marco Rubio assure, je cite, que les Américains ne seront jamais transportés au-delà des mers pour être jugés pour des infractions fictives. Ceux sanctionnés sont interdits de visa et de transactions avec des entreprises liées aux États-Unis, dont notamment les banques ou les services d'Internet. Les organisations et ressortissants américains qui aident, coopèrent, travaillent avec des personnes sous sanction risquent une peine de 20 ans de prison et $1 million d'amende. La semaine dernière, 4 ONG qui coopèrent avec la Cour, dont Human Rights Watch, ont intenté des recours devant la justice américaine. Stéphanie Maupa, l'AE, RFI.
Et ces sanctions américaines suscitent de nombreuses réactions. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères fustige la décision de Washington. Des mesures très regrettables, juge pour sa part la diplomatie japonaise. Une nouvelle manifestation de soutien à Mikhailo Fedorov ce matin à Kiev. L'ancien ministre ukrainien de la Défense, limogé le mois dernier par Volodymyr Zelensky, s'oppose désormais ouvertement au président ukrainien. Dans une vidéo publiée hier, il appelle à la tenue d'élections en Ukraine. La démocratie ne peut pas être retenue en otage par la Russie, lance-t-il, alors que la loi martiale empêche tout scrutin depuis le début de la guerre.
9h08 à Paris, c'est un marathon législatif qui aura duré des années en France.
Emmanuel Macron a promulgué cette nuit la loi sur l'aide à mourir. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour à tous.
Un texte synonyme d'espoir pour de nombreux malades et qui franchit donc une étape importante.
Oui, après plus de 4 ans de débats dans la société et à l'Assemblée nationale. Ça avait commencé en 2022 par une convention citoyenne convoquée par le président. 180 citoyens tirés au sort, les trois quarts en faveur d'une aide à mourir. Puis il y avait eu une loi au Parlement âprement discutée avec de nombreux allers-retours législatifs jusqu'à l'adoption définitive en juillet dernier et enfin la promulgation aujourd'hui, saluée par Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
J'ai beaucoup d'émotion parce que enfin tout ce combat trouve une réalité en France. La loi est promulguée. Je pense évidemment à toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour avoir cette loi, qui ne sont plus là aujourd'hui, qui n'ont pas été respectés dans ce qu'ils définissaient comme leur dignité en fin de vie.
Le texte autorise une personne à mettre fin à sa vie en s'administrant elle-même un produit létal en présence d'un soignant ou en lui déléguant le geste si elle n'est pas en mesure de le faire. Mais plusieurs conditions doivent se cumuler. Le patient doit être majeur, atteint d'une affection grave et incurable, en phase terminale ou avancée, souffrir physiquement de manière insupportable et être en mesure d'exprimer un choix éclairé jusqu'au dernier moment. Avec ce texte, la France rejoint la Belgique, la Suisse ou encore le Canada, le cercle très fermé des pays qui ont déjà légalisé l'aide à mourir.
Et des décrets d'application, merci Baptiste Coulon, doivent encore être publiés pour que cette loi sur l'aide à mourir entre en vigueur. Près de 10 milliards de dollars, c'est la somme qu'il faudrait débloquer pour reconstruire la Colombie après le puissant séisme qui a frappé le pays la semaine dernière. Plus de 300 morts et des dégâts qui révèlent les inégalités sociales dans le pays. Le département du Chocó, dans le nord-ouest de la Colombie, l'un des plus pauvres du pays, a aussi été l'un des plus touchés par ce tremblement de terre. Justine Fontaine, la communauté afro-colombienne, particulièrement nombreuse sur place, se dit abandonnée par les autorités.
Dans le Chocó, près de 80% des habitants sont afro-colombiens. Le département était déjà le plus pauvre du pays avant le séisme. Et ce n'est pas lié au hasard, estime la gouverneure Nubia Carolina Cordoba, elle-même afro-descendante.
C'est lié à l'abandon historique de nos régions par l'État. Des régions majoritairement peuplées d'afro-colombiens et de membres de peuples autochtones. Face au séisme, même des infrastructures aussi essentielles que les routes ou l'électricité nous manquent. Pas seulement parce qu'elles ont été détruites par le tremblement de terre, mais parce qu'elle n'existait même pas avant.
Dans le Chocó, plus de 20 000 logements ont été détruits ou sont inhabitables. L'aide arrive très lentement car certaines communes ne sont accessibles qu'en hélicoptère ou après plusieurs heures de navigation par le fleuve. Amir Chevera, militant afro-colombien et fondateur du mouvement national Cimarron, parle de racisme structurel.
Le séisme est venu frapper une économie déjà profondément inégalitaire et cette situation d'urgence risque de produire encore plus de pauvreté qu'avant.
La reconstruction risque d'être plus lente dans le Chocó qu'ailleurs. Il cite par exemple le cas de communes où des groupes armés exigent un droit de péage pour laisser passer l'aide humanitaire.
Justine Fontaine, de son côté, le président, a téléphoné hier à Marco Rubio. Il a demandé une nouvelle fois au secrétaire d'État américain la suspension des droits de douane américains pour stimuler l'économie. En Belgique, c'est contre un incendie que les autorités luttent toujours. Le feu de forêt à l'est du pays, pire brasier depuis un siècle dans le pays, est désormais encerclé par les pompiers. Mais la situation reste compliquée sur place. Il y a eu plusieurs reprises de feu.
Des incendies rendus plus fréquents et plus violents encore par le changement climatique.
Le réchauffement de notre planète accélère aussi, Clotilde, la dégradation des sols. 40% de la planète est touchée par la désertification. Et c'est justement pour lutter contre ce phénomène que la COP17 se tient en ce moment en Mongolie. L'occasion de faire le point sur les solutions pour restaurer la terre. La Chine, elle, a lancé il y a 50 ans sa grande muraille verte pour reverdir le nord du pays. Et pour l'alimenter, Cléa Broadhurst, les chercheurs misent désormais sur le bambou.
Depuis des décennies, la Chine stabilise ses dunes avec des quadrillages de paille, des plantations d'arbustes ou encore des barrières en plastique. Mais la paille se dégrade rapidement et le plastique soulève des inquiétudes environnementales. Des chercheurs de l'Académie chinoise des forêts proposent donc de remplacer une partie de ces dispositifs par des structures en bambou. Renouvelable, biodégradable et résistant, ce matériau pourrait durer jusqu'à 10 ans et réduire les coûts d'entretien selon les premiers essais réalisés dans le Qinghai et en Mongolie intérieure. Mais plusieurs questions restent ouvertes. Le bambou est principalement cultivé dans le sud de la Chine, loin des régions désertiques où il serait utilisé, ce qui pose la question du transport et de son bilan environnemental. Et surtout, ces expérimentations restent limitées et leur efficacité à grande échelle n'a pas encore été démontrée. Au-delà de l'innovation, cette expérimentation illustre aussi la volonté de Pékin de verdir sa lutte contre la désertification en privilégiant des matériaux biosourcés. Une stratégie qui s'inscrit dans son ambition plus large de développer des alternatives durables au plastique, tout en renforçant son image de leader des technologies environnementales. Cléa Broadhurst de Pékin, RFI.
15h13 à Pékin, un mot de l'actualité sportive et on connaît, ça y est, le remplaçant de Pape Thiaw à la tête de la sélection sénégalaise. Sans surprise, c'est le français Patrick Vieira qui devient le sélectionneur des Lions de la Teranga. Champion du monde 98 avec les Bleus, il fait donc son retour dans son pays de naissance. Ses expériences d'entraîneur en club n'ont pas toujours été couronnées de succès ces dernières années, mais l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France a montré à plusieurs reprises qu'il aimait le Sénégal. C'est ce que nous dit ce matin l'ancienne internationale sénégalais Alassane Dour.
Non, ça fait pas tout. Hein. L'amour, c'est déjà beaucoup. Il faut savoir aussi que Patrick est né au Sénégal, n'a pas joué pour le Sénégal, mais Patrick a fait beaucoup d'investissements, dont l'Académie Diambar, dont il a été... Des créateurs de cette académie avec M. Saersek, Bernard Lama. Donc, il croit en ce pays-là. Je pense que c'était le bon moment pour lui de rebondir dans son propre pays pour, en tant que sélectionneur. Il faut savoir aussi que je pense qu'il a dû faire beaucoup d'efforts pour accepter d'être l'entraîneur du Sénégal parce que on sait comment ça se passe. Et puis, sur le plan financier, il percevait beaucoup plus forcément quand il était à Crystal Palace ou quand il était à Nice. Il a plus mis le côté alléchant, le côté aujourd'hui excitant d'entraîner cette belle équipe-là qui est le Sénégal.
L'ancien international sénégalais Alassane Dour, joint par Antoine Grenier. Rendez-vous donc en septembre pour les premiers pas de Patrick Vieira à la tête des Lions de la Teranga.
Arthur Ponchelet, merci beaucoup. On poursuit avec la revue de presse internationale et avec vous Frédéric Couteau à la une, l'Europe en panne sèche.
La grande pour sécheresse. La carotte, le lapin est la parfaite incarnation du mal. Robert Sheckley.
D4B.
Dans les artères de la ville, je me balade. Devant une boutique fade, je m'évade. Ici, on vend de la plage, du massage au soleil, du voyage sous un tropique irréel. D'après le tour opérateur, là-bas, ça sent le chlore. Lagon turquoise, plat typique et folklore. Mais je suis pas d'accord. Et dans mes souvenirs, l'enfer du décor, ça sent. La police qui cogne, le soleil qui assomme. Ça sent l'essence trafiquée, la diversité des hommes. Ça sent la marmaille qui joue libre à même les rues. Sourire aux lèvres, morveau nez, pieds nus. Ça sent la foule partout qui vit dehors. Ça sent une calache qui dort, qui fume encore. Ça sent le sud, tragique, magique, métisse. Ça sent la sueur, le soleil et les épices. La sueur, le soleil, les épices. Le soleil, les épices. La vie en couleur, en cicatrice. Le soleil, les épices. La sueur, le soleil, les épices. La vie en saveur, en cicatrice. Le soleil, les épices. Ça sent la révolte en sourdine, le coriandre en cuisine, l'adrénaline des jeunes que le foot fascine. Du rêve plein les rétines n'est pas un centime. On tue le temps attendant que l'horizon s'illumine. Ça sent à plein nez la galère et son contraire. Ça pue les dirigeants parano arbitraires. Ça sent le souffle électoral, l'argent sale. 4-4, 4 étoiles des cartes postales. Ça sent la sueur, le soleil, les épices. Le soleil, les épices. La vie en couleur, en cicatrice. Le soleil, les épices. La sueur, le soleil, les épices. Le soleil, les épices. La vie en saveur, en cicatrice. Le soleil. Jamais loin, mais la vie qui veut. Ça sent l'encens qu'on brûle partout vers les yeux. Ça sent l'espoir qui dort à même le trottoir. Et la sagesse des vieillards aux causeries du soir. Ça sent la vie dans les ghettos étouffants qui vit. Notre vengeance sera le sourire de nos enfants. Loin des cartes postales, voilà les coulisses. La sueur, le soleil et les épices. La sueur, le soleil, les épices. La vie en couleur, en cicatrice. La sueur, le soleil, les épices. Le soleil, les épices. La vie en couleur, en cicatrice. Le soleil, les épices. La sueur, le soleil, les épices. Le soleil, les épices. La vie en saveur, en cicatrice. Le soleil.
Je cause, je cause. Comme j'ai rien à te dire, je te parle de tout. Je fais comme si ton silence racontait la même chose. On préfère les muets quand on a du bagou. On se vend les questions et les mensonges avec. Mec, t'as beau être silencieux, j'entends quand t'es pas là. Je te dirai pas que ça fait comme une main qui me manque. Même dans les chansons cons, il y a des trucs qu'on dit pas. C'est moche quand t'es parti, je t'aime, par exemple. Ça, je te le dirai jamais, je te le dirai pas, mais presque. Mec, mais qu'il fait nuit, t'es là sur ta chaise et la vie n'est jamais autant là que quand tu fais le mort, avec juste la voix de ta main qui écrit. Y a des heures qu'on voudrait, là j'en dis trop encore. On va croire que je te drague avec mon tarin grec. Mec, des fois j'ai de l'humour, à mes heures poil au beurre. Pour les pauvres traits d'esprit, tu les connais par cœur. Tiens le cœur justement, je dis que c'est un artichaut. Quand t'as retiré les feuilles, il te paraît plus gros. J'ajoute toujours que c'est le contraire de mon carnet de chèques. Mec, c'est n'importe quoi, ça y est, me voilà lancé. Je me vide, dessus en surcharge, ça me coule, ça me noie, ça me colle. Tu dis rien, tu sais bien que tout va y passer. Rimbaud, le fric, la guerre, Isabelle et l'alcool. Maman, les putes et moi, Paris, Dieppe et le Québec. Mec, dans ton coquillage, j'écoute le bruit de la guerre. Les journaux brûlent un peu les yeux quand on les ouvre. La victoire en chantant poireaute à la barrière. On s'en fait tout un monde et au fond, si ça se trouve, ça fera même pas mal comme un calva cul sec. Mec, des fois, si ça dure, on se retrouvera sur le front. Ensemble à égorger le même salopard. Des boyaux plein les mains, du sang sur les galons. On saura qu'on a été gentil. Qu'on était pas des saints, mais qu'on était corrects. Mec, y'a des mecs, pardon, t'es là, tu demandes rien. Je lâche mes corbeaux noirs sur les blés de ta tête. Pourtant même silencieux, t'es là, ça me fait du bien. Tu sais, moi, faut que je parle, as-tu une allumette? Et puis un clope avec, pour me clouer le bec.
Et ce jour-là, tu me diras. Garde-les bien, gonfle ton cœur, tous ces petits matins de bonheur. Garde-les bien, contre ton cœur, tous ces petits matins de bonheur. Garde-les bien, contre ton cœur, tous ces petits matins de bonheur.
Assise sur les bancs du grand amphithéâtre, tout près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre et qui baillent et rebaillent. Et qui rebat encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de Cent Ans. Jambon. Les étudiants, des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à la vie où je serai au studio, sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Carnaval et Glasgow. De Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de l'être. Petit costard cintré, grande pente dans le dos, qui vous dit volontiers, avec fierté peut-être, un jeune Lycégide, Verlaine ou Rimbaud. Est-ce qu'on se marre à la vague de l'être? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Je reprends la route demain.
d'ailleurs, elle m'a quitté ce soir. Et je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain.
Vous avez appris à truander, tricher et resquiller et vous redevenez honnête dès que j'ai le dos tourné ?
D4B.
Mostra pues camino longe, que mostra pues camino longe, es camino para Santo Tomé. Que mostra pues camino longe, que mostra pues camino longe, es camino para Santo Tomé. Soldado, soldado, soldado. Minha terra de Cabo Verde, soldado, 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 desde minha terra de Cabo Verde. Se vou escrever, me tá escrever. Se vou esquecer, me tá esquecer. Até dia que não voltar. Se vou escrever, me tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Até dia que não voltar. Soldado, 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 desci minha terra de Cabo Verde. Soldado, soldado. Minha terra de café. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Tá esquecer, vou até dia que não voltar. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Tá esquecer, vou até dia que não voltar. Soldado, 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 desci minha terra de Cabo Verde. Soldado, 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 desci minha terra de Cabo Verde. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostra pues caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Quem mostra pues caminho longe, quem mostra pues caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Soldado, 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 desci minha terra de Cabo Verde. Soldado, 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 desci minha terra de Cabo Verde.
saudade dessa terra de Cabo Verde. Quem mostrar foi esse caminho longe? Quem mostrar foi esse caminho longe? Esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrar foi esse caminho longe? Quem mostrar foi esse caminho longe? Esse caminho para Santo Tomé. Saudade, 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 desce minha terra, Cabo Verde. Saudade, 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 saudade.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Sin piedad.
capaz de ser e fazer melhor.
J'aime me beurrer la biscotte.
D4B.
Combien de sang avant de revoir une nouvelle floraison?
attendre ou bien finir par me faire une raison. Pourquoi vouloir tenir parole, garder le contrôle, mais c'est la folie que l'on frôle. S'unir à l'autre comme on s'enrôle, cela n'a rien de drôle, et le foyer devient une geôle. Des larmes se sont mises à couler lorsque je t'ai dit que j'allais m'en aller. Désarmé, je n'ai pu te consoler. Je n'ai pas cédé. Dois me retirer avant de te déposséder de ce beau sourire qui jadis m'avait guidé.
Thank you. of your letters enclosed. I'm glad to hear that you've treated my younger brother so wonderfully. You probably are surprised in receiving this letter, but during a lull in this battle I find time to write to a friend of my brother's. In France, etc. I know that in the near future you people of France will have peace once again, to live your normal lives as you did in the past before the war. I am very close to the heart of Japan, and we Americans are defeating these fanatics on all fronts. There are hard times over here too, but it will end someday for us too, with a full victory for the allied nations. Wishing you and your family the best of luck and health in your liberation.
This way we are. of stone turned cold? Are we young or are we old? Step today is further away. One step today is further away. In this light, truth gets exposed. Life's made of stone, turned cold. Are we young?